France Musique.
Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel.
Vous vous aimez Mozart ?
C'est lequel ?
Le dernier.
Je veux dire que j'ai pas de pot avec la musique.
T'en fais aussi ?
Moi, plutôt crevé.
Vous croyez pas que c'est un peu réservé à certaines élites ?
France Musique.
La 4 saisons n'est pas qu'une pizza.
Saskia Deville, Christophe Chassol.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur France Musique. Bienvenue à vous aussi qui nous accompagnez ici au Théâtre de l'Alliance Française pour cette émission du vendredi que j'ai le plaisir de partager avec Christophe Chassol. Bonjour Christophe.
Bonjour Saskia.
Quel plaisir de vous retrouver.
Pareil.
Oh là là, avec un thème. Ah, c'est chouette aujourd'hui. Enfin, ils sont tous super. Hein, ouais. Mais j'avoue que j'ai une petite passion pour ce thème-là.
Qu'est-ce que c'est aujourd'hui?
La science-fiction.
Ouais, la sci-fi.
C'est quoi la science-fiction pour vous?
Pour moi, c'est une espèce de récit qui utilise la technologie, en gros. Voilà. Ça peut parler des voyages interstellaires, des voyages dans le temps, de la rencontre extraterrestre, des robots, des droïdes. Voilà, c'est les projections. Ça peut être dans le passé, hein, la science-fiction. Mais en général, ça utilise les progrès technologiques.
Bon, alors c'est vous qui commencez?
Vous voulez? Oui. Ouais. Eh ben, écoutez, d'accord, c'est je parti. Vais vous parler d'une série télévisée que j'ai poncée pendant mon enfance. Et d'ailleurs, il y a eu un reboot cette année, ou l'année dernière, fait par Jordan Peele, un mec que j'adore. Jordan Peele, le comique, producteur de télé, celui qui a fait Get Out, vous savez. Il est devenu le host de cette émission. Il a remplacé Rod Serling, qui a créé la série dans les années 50. La Twilight Zone, donc la quatrième dimension. Je vais vous jouer le thème. Donc le thème, c'est... Sauf que on rajoute un si bémol. Et puis des gros accords de cuivre derrière. Allez, je vais vous le passer et je vais vous dire après de qui l'a composé. C'était de la guitare électrique hein, qui jouait le thème.
On n'est pas certain que ça va très bien se passer, cette histoire.
Bah, la quatrième dimension, enfin, le Twilight Zone, cette zone crépusculaire, c'est un endroit où le passé, le futur, le présent s'entrechoquent, où il y a nos peurs. C'est quand la science ne répond plus aux questions. Voilà, c'est entre les croyances et la science dure, quoi. C'est une zone où les choses s'inversent, par exemple. Donc, c'est toujours des épisodes très bizarres, voilà. Moi, j'aime bien ce genre de science-fiction où ça peut être de nos jours, mais avec, je sais pas, une chose inversée. Par exemple, je sais pas, on a les yeux à la place des oreilles. Je sais pas, quelque chose comme ça. La personne qui a écrit ce thème, c'est Marius Constant. Alors, c'est un compositeur d'origine roumaine qui est né en 25 à Bucarest et qui est mort en 2004 à Paris, qui faisait partie du GRM, le groupement recherche musique avec Pierre Schaeffer, voilà, qui est très intéressé par la musique concrète, les expérimentations. Et on retrouve le côté technologique de la musique ici, qui est donc pas étonnant que deux de ses musiques, en l'occurrence, Étrange 3 et Milieu 2, aient été réunies pour faire le générique, donc, de la quatrième dimension par le producteur de l'émission. Et figurez-vous que ce Marius Constant, qui était un élève de Nadia Boulanger, tout ça, a été le cofondateur et directeur de France Musique.
C'est pas beau, là?
Mais si, c'est dingue, hein. De 64 à 69. C'est fou, cette histoire, quand même. Et, je vais vous faire écouter une autre partie de la science-fiction qui se trouve dans les jeux vidéo, avec un jeu vidéo que j'adore qui s'appelle Galaga. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est des vaisseaux dans l'espace intergalactique. C'est un jeu de shoot them up. C'est d'ailleurs un jeu où on défonce tout le monde, enfin avec coup de fusil laser. Écoutons Galaga et ses quelques remixes. Ce qu'on appelle le son 8 bits.
On dirait un dessin animé de mon enfance.
Ouais. We'll be right back.
Pas mal.
Ça vous plaît ?
Ah ouais, j'aime bien.
Ok, très bien.
Ça me rappelle des souvenirs.
Et vous, sur la science-fiction, vous...
Alors moi, ça m'a parlé quand vous évoquiez la technologie de, ouais, d'aujourd'hui, de demain, un peu d'hier, un petit peu un mélange de tout ça. Moi, j'avais envie de vous parler d'intelligence artificielle.
Ouais.
Allez, on écoute tout d'abord le début de la symphonie inachevée de Franz Schubert. Vous avez reconnu cette symphonie inachevée?
Oui. Moi, je la connais parce que je regardais beaucoup les Schtroumpfs quand j'étais petit et qu'à chaque fois qu'ils vont chercher de la salle sparée, il y avait ce thème.
C'est vrai? Alors là, vous m'apprenez quelque chose. Oui. Magnifique, vous voyez, Schubert est partout, j'arrête pas de le dire. Alors, c'est une symphonie inachevée. Pourquoi? Parce qu'une symphonie, de manière générale, il y a 4 mouvements. Ici, il n'y en a que 2. Alors, pourquoi est-ce que Schubert n'a pas fini cette 8e symphonie? Ça, c'est un mystère. Il y a 2 ans, il y a eu une expérience qui a été menée, qui m'avait beaucoup interpellée, notamment par rapport à toutes les questions qu'elle soulève. C'était un projet qui s'appelait Unfinished Symphony, donc symphonie inachevée, portée par l'entreprise de télécom chinoise Huawei, qui s'était donné pour objectif de faire achever cette 8e symphonie par un logiciel d'intelligence artificielle. Le logiciel a donc ingéré, je crois, 90 œuvres de Schubert, ainsi que des œuvres de compositeurs qui ont influencé Schubert au moment de son écriture. Et puis, en fait, ça a donné une sorte de mélange, ou de, comment est-ce qu'on peut dire, des morceaux, des extraits, qui ont été donnés quand même à un compositeur, à un être humain, qui a réorchestré le tout. Même. Et le résultat a été dévoilé lors d'un concert. Donc il y a toujours un peu l'apparition de l'humain. Je vous propose, eh bien, voilà, vous avez le début de cette symphonie en tête. Je vous propose d'écouter un court extrait du résultat, eh bien, de ces mouvements reconstitués. Allez-y, Christophe.
C'est, l'ordinateur, il donne quoi ? Une partition ?
Il donne, si vous voulez, des pistes, en quelque sorte, des mélodies, des chemins qui vont être emballés, on va dire, par un compositeur.
D'accord.
Alors là, j'essaie quand même de chercher l'esthétique pré-romantique de Schubert, je n'ai pas complètement trouvé.
Ouais.
Je ne sais pas si je suis complètement convaincue du résultat. Vous en pensez quoi ? Vous aimez ? Vous n'aimez pas ?
Monsieur, il n'aime pas.
En tout cas, personne s'est levé pour applaudir, donc je pense que ça veut quand même dire quelque chose. Alors, il y a un autre exemple, une autre expérience qui a été menée, cette fois sur la 10e symphonie de Beethoven. C'est une œuvre qui n'existe pas, dont on a gardé quelques esquisses du compositeur. Et donc là, une équipe de musiciens, de compositeurs, d'historiens, de scientifiques se sont enfermés pendant quelques jours dans une pièce avec cette question. Comment des fragments peuvent être transformés en un morceau de musique complet et comment l'intelligence artificielle peut aider à résoudre ce casse-tête tout en restant fidèle au processus et à la vision de Beethoven. 18 mois plus tard, on a ceci. Alors, Alors ça ressemble déjà un petit peu plus à du Beethoven, mais voilà, c'était un petit peu aussi tout ce questionnement qui en est sorti, de savoir, ben voilà, avant que l'intelligence artificielle ne remplace l'être humain, il y a de la marge, fort heureusement pour nous, parce que là, à nouveau, c'est l'intelligence artificielle participe à la reconstitution de l'œuvre, mais ne remplacera jamais de toute façon, l'être humain ici.
C'est pas une histoire de remplacer, j'imagine, c'est plus il y a des choses.
Voilà, mais en fait, c'est ça peut-être la question, savoir est-ce que l'intelligence artificielle peut devenir un outil. Par contre, dans l'écriture, vous l'avez déjà testé en tant que compositeur, Christophe ?
Oui, beaucoup.
C'est vrai ?
Beaucoup. Bah, les choses qu'on fait aujourd'hui avec la technologie, on n'aurait pas pu les faire hier.
Alors, si c'est pas un logiciel qui reconstitue une œuvre, il y a d'autres pistes. Hein. Qui est capable, à part l'être humain, Christophe, de composer des œuvres magnifiques ?
On a par exemple en science-fiction, on a des exemples avec la communication extraterrestre, par exemple. Mais bon, dans un film.
C'est lequel ?
La Close Encounter of the Third Kind, les rencontres du troisième type. Steven Spielberg en 1977, la musique est de John Williams. Et donc le film est magnifique, il est super beau, il y a une super photo. Il y a même François Truffaut dedans qui joue un des scientifiques. C'est des scientifiques qui vont en Inde parce qu'il y a des gens, des foules qui chantent une série de 5 notes. Bah, vous les connaissez d'ailleurs ces 5 notes, elles sont dans la pop culture maintenant, c'est... Vous connaissez ça, sol, la, fa, fa, do. C'est les 5 notes qu'utilisent les extraterrestres pour communiquer. Voilà.
Tout simplement.
Tout simplement. Et le professeur Lacombe, donc joué par Truffaut, lui, va, grâce à la méthode de Kodály, alors j'ai lu ça hier, mais je vois pas comment la méthode de Kodály l'a aidé à transcrire ça en langage des signes, mais c'est ce qui est dit dans le film, en tout cas. Dans le film, donc, on a un grand vaisseau et les scientifiques qui communiquent avec des codes couleurs et ces 5 notes. Et John Williams, on lui a demandé le compositeur, donc Spielberg lui a demandé une mélodie très très simple, 5 notes, et il a fait plein de propositions. C'est celle-ci qui a été choisie, cette série, voilà, qui peuvent être harmonisées de plein de façons. Hein. Mais on va écouter ce qu'a fait John Williams. Je trouve que c'est de l'orfèvre, c'est super. Tout le monde connaît ses thèmes. Et bon, écoutons ce qu'il en a fait. Allez, c'est si la mi. Qui part un petit peu en vrille. Hein. Bon, alors vous allez voir comment le thème est récupéré. Là, on est vraiment dans du grand John Williams, Hollywood. Mais il va nous replacer ces 5 notes.
C'est la fin du film, ça ?
Ouais, c'est la fin. Ah, donc, ils sont partis, là. Ils sont partis dans l'espace. Et ils sont allés vers le soleil, un petit peu.
France Musique. Saskia Deville, Christophe Chassol.
En parlant d'espace infini, vous avez des sons de l'espace ?
Oui, des sons du soleil et de Jupiter à vous faire écouter. Oui. Mmh. On va d'abord écouter un extrait. Entendez, Christophe, d'un côté, le quatuor à cordes, le Kronos Quartet, et puis de l'autre, des sons recueillis dans l'espace par la NASA.
Ouais.
Une sorte de doux mélange. Alors, il faut savoir que ces sons à la base de la Terre, du Soleil et de Jupiter sont inaudibles pour nous à l'état brut, et donc elles ont été manipulées électroniquement pour pouvoir épouser les sonorités du quatuor. Alors c'est une œuvre absolument géniale que j'ai découverte en préparant cette émission, Christophe. Vous voyez, on va toujours chercher un petit peu plus loin et puis on tombe sur des choses merveilleuses. Cette œuvre, c'est Sun Rings de Terry Riley. Ici, c'est le deuxième mouvement, le deuxième volet de cette œuvre qu'on écoute. Vous me disiez que ça sonnait comme de la musique indienne. Mais je suis tout à fait d'accord. C'est ça qui m'a frappé aussi complètement au début.
Terry Riley, lui, il a passé peut-être 20 ans avec un gourou en Inde. Donc il
en reste des traces.
Voilà, le violon sonne très indien, quoi.
Alors, c'est une œuvre qui date de 2002, œuvre de musique de chambre donc. La commande a été passée par la NASA elle-même au Kronos Quartet, qui a à son tour engagé Terry Riley pour composer l'œuvre. Et l'objectif, c'était bien de commémorer le 25e anniversaire du lancement de la sonde spatiale Voyager 1. Et donc, au moment justement de cette mission-là, des sons ont été enregistrés, et c'est ces sons qui ont servi l'œuvre ici qu'on écoute. C'est une œuvre qui fait quand même 80 minutes, 10 volets différents que je vous invite vraiment à aller écouter. On ne peut pas tous les écouter aujourd'hui, évidemment. Donc j'ai choisi de vous faire entendre le dernier, vraiment le volet qui termine l'œuvre, qui a été, je vous disais, l'œuvre est de 2002. Terry Riley compose donc l'œuvre en 2001. Et le dernier volet a été ajouté au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, dont on se rappelle évidemment. Alors il y a plusieurs choses. Il va utiliser ses sons de l'espace, il va utiliser bien évidemment ce quatuor, et il va aussi, après avoir entendu la poétesse et romancière Alice Walker à la radio, utiliser la bande de l'enregistrement de son mantra One Earth, One People, One Love, dont vous vous rappelez peut-être. Et puis il va aussi ajouter un extrait d'un documentaire qui traite des missions Apollo de la NASA, For All Mankind. On entend la voix du commandant de la mission Apollo 17, Eugene Cernan, parler, et donc il a un petit peu mélangé donc la voix de cette poétesse, la voix du commandant, et puis comme je vous le disais, les sons de l'espace, le quatuor, et tout ça dans un truc absolument génial. Donc je vous propose d'écouter cet extrait.
You have to literally just pinch yourself and ask yourself the question silently, do you really know where you are at this point in time and space and in reality and in existence? When you look out the window and you're looking back at the most beautiful star in the heavens, the most beautiful because it's the one we understand and we know, it's we're home, it's humanity, it's people, family, love, life. And besides that, it is beautiful. You can see from pole to pole and across oceans and continents, and you can watch it turn, and there's no strings holding it up. And it's moving in a blackness that is almost beyond conception.
One earth. One people.
One Earth, One People, One Love, dernier volet, dixième volet de cette œuvre Sun Rings de Terry Riley, que je vous invite vraiment à aller écouter.
Je la trouve très terrienne, tellurique quasiment, ça décide justement pas trop de l'espace. Quoi.
Mais on y revient aussi avec l'être humain qui prend sa place aussi dans cet extrait-là. Non, il n'y a pas de hasard.
C'est très beau.
Je confirme. Christophe, on va terminer avec... Alors, je suis très contente. Avec Mars Attack.
Oui, Mars Attack, c'est le film de 97 et la musique, c'est Danny Elfman. Danny Elfman, il est assez connu hein, comme compositeur de musique.
Ah, quand même, oui.
C'est lui qui avait fait Édouard Romain d'Argent, par exemple. Il est très connu pour les choses un peu dans les aigus avec les Célestas, un peu justement comme Neptune de Holst, vous savez, la mystique, la pièce des planètes. Et on va écouter, il y a du thérémine dedans. Le thérémine, c'est vraiment l'instrument de la science-fiction hein, inventé par le Léon.
Voilà, on voulait encore en parler aujourd'hui, mais bon, on a un temps limité, donc ouais. Ça sera certainement pour une prochaine émission. C'est-à-dire en trois mots, c'est quoi le thérémine?
C'est le premier instrument de musique électronique qui utilise les ondes radio, en gros, pour faire son son.
Magnifique.
Qui est joué, voilà, avec juste la main dans l'air, quoi.
Eh bien, on va finir cette émission avec le générique de Mars Attack pour mon plus grand plaisir. Merci beaucoup, Christophe.
Merci à vous.
Je vous retrouve la semaine prochaine, bien sûr. Merci aussi à Marie Le Peintre, à Stéphane Touvenin, à Corentin Bailly, à Annabelle Toulomé, Éric Lancien, Pauline Boisembert et puis nos chères auditrices, chers auditeurs qui sont avec nous aujourd'hui au théâtre de l'Alliance Française. Je vous souhaite une très belle après-midi à l'écoute de France Musique et à la semaine prochaine.
À réécouter sur francemusique.fr.